série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un Cereal Lover
ou un Cereal Eaters.
Bonjour les Cerivores et bonne année, puisque nous sommes en cette nouvelle année 2023. Et donc, je vous souhaite, de la part de David et moi-même, donc une année faste en série avec plein de bonnes choses à découvrir. Et ça sera d'ailleurs l'occasion de notre prochain Cerivore où on fera un petit bilan 2022 et puis les nouvelles séries 2023. Mais aujourd'hui, eh bien, nous avons décidé pour commencer de l'année de vous parler d'une série, alors vraiment là on peut dire culte, même cultissime, c'est Goldorak, UFO robot Gendizer, littéralement Grandizer le robot OVNI, qui est une série animée japonaise conçue et réalisée et produite par la Toei Animation en 75 d'après une originale de Toei Doga et son film Ucho Aibon Daisenso. Excusez-moi si je ne parle pas le japonais. Hein. Tu peux nous parler un peu de cette série qui, je pense, a un peu agrémenté ta jeunesse.
Ok, oui. C'est une série qui a été produite de 1975 à 1977. Et c'est une série donc, qu'on pourrait classer comme manga, animation, science-fiction aussi. Et elle est composée de 3 saisons, soit 74 épisodes de 24 minutes.
Alors, le synopsis, c'est Vega, grand stratégaire de la planète Strikades, s'empare de Fort, une petite planète pacifique qu'il va ravager avec sa flotte de soucoupes volantes et de robots géants. Et durant cette attaque, il mène à la destruction de Fort. La famille royale est totalement exterminée, si ce n'est Actarus, le fils du roi et prince, qui parvient miraculeusement à s'échapper après s'être emparé de Goldorak, le plus perfectionné des robots mis au point par les scientifiques de cette planète. Et il va s'enfuir vers la Terre, où il est recueilli par le professeur Procyon, qui dirige le centre de recherche spatiale. Et poursuivant sa conquête de nouvelles planètes, Vega, qui est un espèce de tyran, va établir une base sur la face cachée de la Lune, à partir de laquelle il commence à lancer l'offensive vers notre planète. Actarus se voit alors dans l'obligation d'utiliser son arme fatale, Goldorak, afin d'éviter que la Terre subisse le même sort que sa planète natale.
Eh bien oui.
Donc c'est une série vraiment, oui, qui a marqué des générations. Et on va voir après tout à l'heure dans les anecdotes qu'il y a même un culte de Goldorak. Alors, les héros principaux et les acteurs qui les interprètent.
On va peut-être écouter le petit générique.
Oui,
un petit
on
peu
va
avant.
Peut-être écouter le générique.
Parce que c'est un générique culte aussi. Hein,
oui, qui a eu plusieurs génériques d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Mais celui qu'on connaît le plus, c'est celui avec Noam. Oui. Et que tu vas nous passer d'ailleurs.
Traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot, des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant, des nouveaux temps. Soleil éblouissant, qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini. Il est né d'une galaxie aux frontières d'une autre vie. Qui est-il? D'où vient-il? L'invincible robot des temps nouveaux. Vite que la lumière.
Alors, comme je le disais, les héros principaux, les acteurs qui les interprètent, alors, ben, Goldorak. Alors, Goldorak, c'est un espèce de robot géant, une gigantesque machine de guerre extraterrestre qui est constituée de deux parties qui sont très lourdement armées. L'engin est stationné dans un lieu qui est tenu secret du centre de recherche spatiale. Et il sort uniquement pour les missions, pour aider Actarus à faire survivre cette pauvre Terre. Le héros, donc l'Actarus, qui est prince d'Euphor, comme je disais tout à l'heure. Alors, donc, c'est un prince héritier de la planète Euphor, qui a fui donc, sa planète natale à bord du vaisseau Goldorak. Et donc, après la destruction totale de sa civilisation par les forces de Vega, bah, il est... quelqu'un de tourmenté, plutôt introverti, mélancolique, et lui ne rêve que de paix après toutes ces batailles et ces guerres. Et il va reprendre donc les commandes de son appareil pour défendre la Terre. Tu peux nous parler ensuite...
D'Alcor.
D'Alcor.
Oui, c'est le héros de la série antérieure qui s'appelait Mazinger Z. Il figure ici en qualité de partenaire en fait, d'Actarus, qui est le protagoniste principal. Les seules évocations de son statut de pilote du robot Mazinger Z résideront donc dans un bref flashback du premier épisode.
Voilà, donc c'est un peu une intro, un peu comme bah, dans toutes les séries, on met en place les choses.
Il y a aussi le professeur Procyon, c'est un scientifique et directeur du centre d'études spatiales situé sur les terres du ranch du Bouleau Blanc. Procyon est un savant d'une intelligence exceptionnelle, grand et sage, humaniste, obligé à son grand âme de transformer son centre en une invincible forteresse de métal pour lutter donc contre le vilain Vega. Il est calme et réfléchi, il guide aussi souvent Actarus dans ses choix, il l'a recueilli et adopté lorsque Goldorak s'est écrasé sur la Terre.
Et puis il y a aussi Rigel. Rigel, c'est le propriétaire du ranch du Bouleau Blanc.
Qui est bien marrant.
et ainsi que du terrain où se trouve le centre spatial. C'est un homme d'âge mûr, au physique peu commun, au tempérament colérique, têtu, mythomane, et souvent porté sur l'accès de boissons alcoolisées. Et oui, on peut dire que c'est un poivreau. Voilà.
Il y a aussi Vénusia, qui est sa fille, donc, qui est la fille de Rigel. Elle est amoureuse aussi d'Actarus, et la relation entre les deux évolue en fait au fil de la série. Elle est d'abord tenue dans l'ignorance de la véritable identité d'Actarus, jusqu'à ce qu'elle découvre son secret. Elle en comprend les enjeux et devient un soutien moral du prince dans son combat. Voilà.
Alors il y a aussi Phénicia, sa sœur, la sœur cadette d'Actarus, et qui elle aussi est une survivante et qui a trouvé refuge auprès de son frère sur Terre.
Et il la retrouve un peu plus tard. Il y a Mizar aussi, le petit frère de Vénusia.
Banta, alors lui, c'est un garçon de ferme, bon, assez rustre, on peut dire.
Oui, carrément.
Le simplet. Ah, oui. On pourrait même dire bah, plutôt bagarreur et grossier, constamment affublé d'un sombrero et d'une chemise bariolée. Ouais, ça fait un peu le touriste là-dedans. C'est assez marrant de voir que ce personnage, ouais, il est assez atypique. Ensuite, il y a Antares, Argoli, Koshir et Octane, qui eux sont les assistants scientifiques du professeur Procyon et qui travaillent en collaboration avec lui au centre de recherche spatiale.
Il y a aussi le grand méchant, qui est le grand stratégaire, qui est souverain de l'Empire de Vega, qui réside sur la planète Stycades. Il reste tout d'abord à l'écart des conflits avant de prendre lui-même les choses en main devant l'incompétence de ses hommes et à la suite de l'explosion de sa planète, donc Stycades. Il y a aussi Minos, commandant en chef des forces armées de Vega, établi au camp de la Lune Noire sur la face cachée de la Lune. Il est dévoué corps et âme à la cause de Vega et est prêt à tous les sacrifices pour éliminer Actarus et s'emparer de la Terre.
Donc on voit qu'il y a des super méchants, des super gentils, et c'est vraiment oui, l'ambiance de la fin des années 80 où il y avait toujours le bien, le mal, moins de héros, disons, un peu torturés comme on peut voir dans les séries actuelles avec leurs failles. Là, c'est plutôt les gentils contre les méchants. Comme ça a été parodié dans pas mal de personnes. Alors, les anecdotes autour de la série. Alors, son nom japonais, Grandizer, n'évoquait en fait pas grand-chose au public français au début, puisque la série a été rebaptisée Goldorak, combinaison des mots gold en hommage du film Goldfinger, qui était célèbre à l'époque, le James Bond, et Rack, d'après le célèbre héros Mandrake du journal de Mickey. Donc ça sonnait plus français, enfin plus français, plus anglo-saxon, on pourrait dire, et plus super-héros, et qu'un héros japonais. Il faut le dire qu'à l'époque, les cultures manga étaient vraiment réservées à des initiés, alors que maintenant, il y a beaucoup toute une génération, et spécialement actuellement, hein, on voit le développement des cosplays, des choses comme ça. Donc la culture japonaise a pris une grande part.
Tout à fait.
Et Goldorak en a pris Ça part. Ça part, mais grandement.
Donc, La Folie Goldorak est diffusée pour la première fois en France le lundi 3 juillet 1978 sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2. Son succès immédiat préfigure ainsi l'arrivée d'une nouvelle génération de téléspectateurs amateurs d'animation japonaise, c'est ce que tu disais, dans un article intitulé La Folie Goldorak en janvier 1979, le journal Paris Match parlait même de nouveau messie des enfants français, quand même. Et le début d'une toute nouvelle ère faite d'amour, de paix et bien sûr de robots. Parce que les animés étaient alors totalement inconnus en dehors des frontières du Japon, le faible coût de leurs droits de diffusion permettait aux chaînes françaises de compléter leur grille à moindre frais. Mais personne ne s'attendait alors à ce que cette solution économique connaisse en fait un succès phénoménal d'une telle ampleur.
Oui, en effet, au départ, c'était pour gagner
la série précurseur.
C'était pour... on les achetait à pas cher, c'était le dessin, la production japonaise, c'était la production à grande échelle, comme tout ce que faisaient les Japonais à l'époque. Et puis, voilà, donc quand on prenait les concurrents européens à l'époque, ça coûtait très cher de faire des séries animées. Et là, tout de suite, bon, ils ont vu la possibilité d'avoir à moindre coût, comme d'habitude, hein, c'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre, et l'essai a été transformé, puisque ce qui était au départ un truc économique est devenu un succès médiatique. Et donc, en 1981, l'essai... À 5 ans, seul avec Goldorak de la psychologue Liliane Lurka, critique ouvertement l'influence de Goldorak sur la jeunesse, reprochant notamment à l'animé sa violence. C'est vrai que, je me rappelle, à l'époque, c'était un gros sujet. Faut-il interdire Goldorak, les mangas? Parce que c'est une culture qui est différente. La culture japonaise, c'est à la fois le zen, mais la violence. On le voit dans beaucoup de choses. Et donc, c'était pas tout à fait admis, entre guillemets, la société française qui était basée plus sur le truc romantique et les choses comme ça. Le côté chevaleresque, on le retrouve un petit peu, mais c'était quelque chose de très différent.
Alors, quelques années plus tard, la présentatrice Dorothée était surnommée Goldorothée par le magazine Télérama dans un article hostile intitulé « L'Odyssée d'Ulysse ».
Parce que voilà, on reprochait aussi le manque de scénario. Ben, c'est vrai que c'est basique. Hein. On a
oui, Goldorak encore. Oui.
Et ça ramenait derrière un petit peu. On peut dire, on pourrait comparer un peu ce qui se passe avec les Marvel. C'est surtout l'action, la bagarre. Et les scénarios sont souvent très légers et voilà, ça préconisait un petit peu.
Sauf qu'il y a pas autant de millions de dollars pour la création.
Voilà. Puis en plus,
pas autant de gens pour bosser
voilà dessus. Derrière. Et puis aussi le fait que les effets spéciaux, le numérique. Ont changé un peu la donne. Alors, on en parlait tout à l'heure, on l'a entendu, la musique de Goldorak est l'œuvre de départ de Shunsuke Kiyoshi. Cet auteur-compositeur a réalisé notamment les bandes originales de séries d'Akira Toriyama, que donc tu me disais que c'était une des pointures du manga.
Tout à fait.
Alors, il a fait Dr. Slump et Dragon Ball Z du collège Foufoufou, ou encore de la chanson... Urami Ibushi, issu du film La Femme Scorpion, reprise en 2004 par Quentin Tarantino dans son fameux Kill Bill volume 2.
Et passionné par les films des monstres géants tels que Godzilla et King Kong, mais également par le manga visionnaire Astro Boy, Go Nagai, a trouvé l'inspiration dans un embouteillage alors que sa voiture était à l'arrêt. En fait, laissant vaquer son imagination, le mangaka avait alors imaginé des bras et des jambes poussés sur l'un des véhicules pour lui permettre de quitter l'autoroute. Cette vision lui a ainsi donné l'idée de base de la série Mazinger Z, prolongée ensuite sur Goldorak. Eh bien, si tous les Parisiens avaient autant d'imagination dans les bouchons, je pense qu'on aurait pas mal de mangas sympas.
Alors, étonnamment, Goldorak est bien plus populaire en France qu'au Japon, et ce qui est son pays d'origine. Et selon son créateur, donc Go Nagai, ce succès s'explique en grande partie par le fait que les téléspectateurs français ne connaissaient pas Mazinger Z et sa suite Great Mazinger au moment où Goldorak a été diffusé, mais aussi parce que le public nippon n'a pas accepté que le très populaire personnage d'Alcor soit relégué au second plan dans cette nouvelle série. Donc nous, on était beaucoup plus open, on pourrait dire ouvert à découvrir un nouveau héros, alors que pour les Japonais, c'était l'héros de remplacement.
Et Goldorak a donné son nom au gyrophare posé sur les voitures de la police française. Interrogé sur l'hommage qui l'a le plus touché au fil des années, Go Nagai a ainsi révélé avoir particulièrement aimé Pacific Rim, oui c'est un peu logique, dont le réalisateur Guillermo del Toro est justement un immense admirateur d'animés japonais, et notamment de séries Mazinger Z et Goldorak. Ça se voit en tout cas.
Accours vers nous, Prince de l'espace, première version du générique du début, qui est reprise en français du générique original, enregistré en une seule prise et supervisé par les Japonais. Il a été diffusé en juillet août 1978, interprété par Enrique Faure, dont l'auteur était un certain Pierre Delanoë, un très compositeur très connu. Et le compositeur était donc Shunsuke Kiyuchi. Et il n'a jamais été édité en disque dans cette version.
Va combattre ton ennemi, générique de fin, ce fut le premier générique en fait final à diffuser en juillet et août 1978. Son interprète était Enrique Faure, et l'auteur Pierre Delanoë, et le compositeur Shunsuke Kikuchi. Ce générique a été retiré rapidement de l'antenne et n'a jamais été édité en disque. On peut cependant retrouver des extraits de ses chansons dans certains épisodes de Goldorak durant les combats.
Alors, Goldorak le Grand, ce fut le second générique en français qui est devenu le générique officiel, totalement différent du générique original de début et de fin d'épisode. Et donc, à partir de septembre 1978, c'est Noam qui l'interprète. Et toujours, on a gardé l'auteur Pierre Delanoë, bien sûr, mais le compositeur, c'est Pascal Auriat qui a pris cette version. Alors, cette version, qui demeure là, donc la plus connue la plupart des gens connaissent, s'est vendue à plus de 4 millions d'exemplaires et a été fréquemment rééditée sur CD. Elle est présente en version générique remasterisée et en stéréo sur une édition DVD Blu-ray qui a été réalisée par AB Vidéo, entre autres.
Il existe deux films, n'excédant pas une demi-heure chacun, dans lesquels intervient Goldorak. C'est Goldorak contre Grit Mazinger et l'attaque du Dragosaur. Tous deux sortis en salle au Japon au cours de l'année 1976. Le film Uchuenban Daisenso, la guerre des soucoupes volantes, sorti au cours de l'été 1975, est le pilote de Goldorak.
En France, un montage des épisodes 1, 2, 4, 5 et 10 a été même exploité en salle en 1979 sous le titre Goldorak au cinéma.
Un deuxième est sorti en 1980, c'était Le Retour de Goldorak. Montage improbable et quelque peu incohérent des deux films, l'attaque de Dragosaur et Goldorak contre Grit Mazinger, et d'un autre animé, Devilman 76. Ce fut un échec car la ferveur pour Goldorak tendait à s'estomper, mais surtout à cause de la médiocrité du montage invraisemblable et de la présence d'autres héros de Go Nagai, peu connus hors Japon.
Voilà, en fait, on a essayé de surfer, comme on dirait, sur la vague pour faire de l'argent. Mais bon, si on fait un truc bâclé, en général, ça donne souvent un échec derrière. Et ça a été le cas pour celui-ci. Alors, La Poste a aussi rendu hommage à l'animé Goldorak en proposant deux blocs de timbres à l'effigie du robot géant. Et oui, c'était à l'époque où on avait encore des timbres, on faisait du courrier. Et malheureusement, on peut saluer le timbre rouge qui va disparaître cette année. Et on remercie la banque La Poste, puisque maintenant on peut dire la banque La Poste. Et on aura moins en moins de timbres, et c'est dommage, parce que c'est aussi un moyen de véhiculer la culture.
Alors, la Maison de la Culture du Japon, à Paris, lui consacre une exposition, la Goldorak X Prenien Z. La bande dessinée Sentai School comporte de nombreuses références aussi à Goldorak.
L'album La Guerre des Génies, 10e de la série de bande dessinée Léonard, met en scène un combat de deux robots géants, dont l'un est un pastiche de Goldorak.
L'album Le Réveil du Z de la série Spirou et Fantasio parodie Goldorak durant quelques cases avec Goldorak.
L'album Le Ciel tombe sur la tête, lui tombe sur la tête, de la série Astérix, bien sûr, le Gaulois, fait référence à Goldorak à la page 25. Les guerriers robots des Nagma, anagramme des mangas, sont les Golderas.
C'est marrant. Une planche du Pif Gadget numéro 522 met en scène Placide et Mudzor rencontrant Goldorak.
Le gadget de Pif Gadget numéro 548 est le Piforak avec son Hercule Looping. Vous voyez
le point.
Hercule au point par rapport au figure au point du Goldorak.
L'album Goldorak, édité par Kana et créé par le français Xavier Dorizon, Denis Bajram, Alexis Santanac, Brice Cossu et Johan Guillot, sort le 15 octobre 2021. L'histoire se déroule chronologiquement après la fin de la série animée et la BD est accueillie plutôt favorablement par la critique.
Comme quoi, vous voyez, ça passe les générations. Et dans la version TV de Qui a tué Pamela Rose, de Cadet Olivier, Cadet Olivier entonne la chanson de Noam, le fameux générique, avant qu'un sosie de celui-ci accompagne de Dokoris n'apparaissent dans leur célèbre Fuego. Vous voyez à quel point va se nicher Goldorak. Hein.
Et la série a donné aussi lieu à un tournage, à un ouvrage plutôt, intitulé Roman Album, publié par Tokuma Shonten fin 1978 au Japon, dans lequel s'expriment différents auteurs et artistes ayant pris part à l'aventure.
En octobre 2021, avec l'accord de Go Nagai, 5 auteurs français vont publier donc une bande dessinée simplement intitulée Goldorak, qui se situe l'action 10 ans après la fin de la série originale.
Ah, elle est super bien cette BD. Les Fatal Picard ont conçu la chanson parodique Goldorak est mort, ou la complainte d'Actarus qui vient d'emboutir Goldorak dans un platane en revenant de boîte de nuit. Dis donc,
tout
bravo.
Tout à fait du Fatal Picard, ah, hein, on a eu l'occasion de les voir pas mal de fois en Touraine, et c'est vrai que c'est tout à fait dans leur style. Alors, le chanteur italien Alessio Caraturo a réalisé une reprise du générique italien de Goldorak, Gold Drake, sous forme de ballade.
Et le groupe Range La Machine a rendu hommage à Goldorak en reprenant sur leur album Traffic, sorti en 2002, la chanson Accours vers nous, dans un style heavy metal.
Vous voyez, rien ne sera épargné pour Goldorak. Hein. Ah, dans la chanson Née sous la même étoile de 1997, le groupe hip-hop français I Am, on entend à la toute fin un extrait du 33 tours Goldorak comme au cinéma, sorti en 79, dont on a parlé tout à l'heure. C'est une phrase prononcée par Daniel Garr, qui jouait le rôle de la voix d'Actarus en français. « Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre que n'importe quel être humain ? Pourquoi mon destin est-il de pouvoir cesser de me battre ?» Vous voyez, où va se nicher Goldorak, et on voit que c'est une génération qui a été élevée au Goldorak.
Et il y a aussi le disque jockey et producteur d'hip-hop français Digicam qui a samplé un extrait de l'épisode Les Amoureux de Fort, saison 1, épisode 25, dans sa chanson Dieu reconnaîtra les siens, de l'album Underground Vibes. C'est la voix de Daniel Gall, Actarus.
Dans la chanson Do You Speak Martian, sur le premier disque de Benny B, le sample revenant en boucle est la voix de Rigel dans l'épisode 1 de la première saison, lors de l'arrivée d'Alcor au fameux ranch du boulot. Le sample ne sera pas crédité sur le disque. Comme quoi, c'est bien de pomper, mais il faut quand même toujours donner d'où ça vient, c'est plus sympa.
Le groupe québécois Yellow Molo a repris la chanson thème de la série sur leur album Méli Mélo, apparu en mai 2001.
Encore un groupe de rock, celui de DSL, qui a écrit un morceau nommé tout simplement Goldorak.
Le 8e morceau de l'album de rap Full HD s'intitule Goldorak, et certains termes de la série y sont cités.
Donc, on voit qu'il y a une grosse influence dans les gens qui ont connu justement Goldorak petit, hein, puisque les groupes de rap, c'est quand même une génération qui est plus jeune. Et le groupe de métal progressif québécois qui s'appelle Oblivion a repris les chansons Goldorak le Grand sur l'album Flashback, une compilation de reprises de génériques de dessins animés. Donc, c'est assez sympa comme projet.
Et enregistré en 1980, l'EP Les 45 Tours de Cochon de Los Gonococos, groupe constitué de Jean Bonnefoy, Jean-Louis Le Breton et Yves Frémion, appelle Goldorak au secours du Larzac dans les deux titres de la face A, Goldorak, Lou Larzem et Mezral Oul Karolog. Le même morceau passé à l'envers.
Comme quoi, ça fait Goldorak va même aider les causes politiques, donc c'est terrible quand même. Alors, la couverture de l'album de Daft Punk, Random Access Memories, représente leurs deux demi-casques côte à côte et s'est inspiré de ceux de la série, et surtout de sa disposition constitue une caractéristique récurrente et majeure du second opening peu connu en France de Grandizer, réalisé donc par Shingo Araki.
Et Enrique Faure, le chanteur du tout premier générique français de la série en 1978, jamais paru en 45 tours original, sort fin 2018 un remix intitulé Goldorak 2.0 en streaming.
En 79, un Goldorak gonflable de 12 mètres et sa soucoupe ont été exposés sur le parking d'une chaîne d'hypermarché. Donc, comme quoi, ça permettait vraiment de populariser non seulement la télé, mais en général, c'était un bon objet marketing.
Et en France, en septembre 2014, sort périodiquement en kiosque une série de près de 100 figurines représentant largement l'univers de la série Go Nagai Collection, retirée de la vente quelques semaines plus tard.
Un Goldorak gonflable encore, géant de 5 mètres cette fois-ci, avec sa pompe, est en vente pour décorer les animations spéciales Goldorak. Donc si vous êtes fan, vous pouvez avoir Goldorak chez vous.
Et une statue de Goldorak haute de 7 mètres, construite en fer forgé, est installée en décembre 2018 sur un rond-point de la commune de Thiers. Et elle devait être enlevée à la base pour l'histoire. Et en fait, il y a tellement de gens qui ont voulu la garder Kia va rester.
Alors, on lui souhaite le même succès que la Tour Eiffel, hein, qui était au départ que pour l'exposition universelle. Puis on l'a gardé. Bah, comme quoi, c'est bien, de temps en temps, de changer un petit peu, puis de mettre des trucs un peu modernes, pourquoi pas. En 2020, les éditions Hachette mettent en vente une collection de fascicules contenant les éléments d'une figurine de 70 cm à assembler soi-même, à une maquette. Et les fascicules comportent aussi un manga inédit créé spécialement pour le marché européen et qui reprend chaque épisode de la série télévisée de manière extrêmement condensée.
Et le gagman Rémi Gaillard a réalisé aussi une de ses plus célèbres caméras cachées avec un déguisement de Goldorak réalisé spécialement pour l'occasion.
La chapelle de Bethléem à Saint-Jean-de-Boisseau possède une chimère représentant Goldorak en tant que chevalier au cœur pur.
Waouh. Le 18 décembre 2017 a été inaugurée à Montpellier aussi une statue au look moderne de Goldorak.
Eh bien, après toutes ces anecdotes, il y en avait un paquet, hein, on va passer à un extrait de la série que tu vas nous concocter, mon petit David.
Goldorak, à toi de jouer!
Je leur interdis d'occuper le moindre pouce de terrain de la planète bleue. Missile Gamma! Ah bon, c'est la bagarre que tu veux, j'adore ça. Transfert.
Le plus, c'est les originalités de la série. Bah, j'ai mis découverte et vulgarisation de la culture manga enfance en France. Parce que avant, c'était un petit peu, comme je disais tout à l'heure, le désert. Je sais pas si toi tu vois. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Goldorak, je l'avoue. J'ai eu du mal. Alors, est-ce que c'est parce que aussi j'ai été habitué au dessin animé traditionnel, hein, je suis plutôt Disney. Pareil en bande dessinée, je suis plutôt la ligne belge, un peu Tintin, Black Mortimer, des choses comme ça. J'aime bien les dessins plus chiadés. Et c'est vrai que j'ai du mal avec les dessins japonais avec des gros yeux, des bouilles. C'est pas. Heureusement.
Alors maintenant, ça a évolué. Quand
ça
même.
A très bien évolué et il y a des excellents mangas que j'adore. Ouais. Mais voilà, l'époque Goldorak, pour moi, j'étais déjà... je sais pas, ça m'a pas vraiment intéressé beaucoup. Et j'avoue, je ne suis pas un fan de Goldorak. Mais c'était normal de traiter, puisque c'est quand même un dessin animé, une série culte en France. Donc, Cerevor pouvait pas s'empêcher de parler de cette série. Et pour toi, David ?
Bah écoute, moi je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, ça devait être peut-être un des premiers dessins animés, je pense, que j'ai regardé. Donc moi j'aimais beaucoup, et puis l'histoire de robot, bah en fait c'est sympa, moi on peut presque dire que Goldorak c'est presque le papa de Gundam aussi actuellement, le nouveau manga sur des robots. Non, bah sinon c'était, les personnages étaient quand même sympas, un peu rigolos, bah comme on disait là, les deux, entre le poivreau et puis celui un peu beauf là, après c'était un peu... Il y avait aussi, les mangas c'est ça qui est bien... Aussi, dans certains, ça a perdu ça, mais avant, c'était énormément. Il pouvait y avoir de la violence, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'humour et de choses complètement décalées et complètement barrées.
Mais je pense que c'est aussi la violence, c'est ce que je discutais à l'heure, c'est culturel au Japon. La violence fait plus partie. Nous, c'est peut-être un peu plus hypocrite ou je sais pas. Il y a de la violence aussi bien chez nous, hein, mais c'est les dessins animés qui se faisaient par exemple à l'époque étaient beaucoup moins violents. On essayait de protéger les enfants, et c'est vrai qu'à un moment, bah, maintenant, on voit qu'on est envahi par la culture américaine aussi, où l'ultra-violence a pris aussi un petit peu le pouvoir. Et bon, mais bon, quand on voit ce qu'on nous passe aux chaînes d'information tous les jours, c'est ça qui est plus grave, c'est que là, c'est de la vraie violence, et puis c'est un peu du voyeurisme, hein, c'est un peu une course au voyeurisme maintenant. À l'époque, ça faisait partie des codes de la culture japonaise, du manga, de l'histoire. Mais voilà, c'est pour ça que ça a été un peu aussi un choc culturel, et que cette série n'a pas toujours été forcément bien accueillie par la société française au départ. On a eu la même chose, par exemple, pour les jeux de rôle, qui sont anglo-saxons, qui n'étaient pas dans la mentalité. Mais bon, voilà. Après, il y a des spécialistes, on apprend à connaître les choses. Comme tu disais si bien tout à l'heure, il y a du bon et du mauvais manga. Et je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai eu l'occasion de découvrir de très bons mangas et d'animations japonaises. Et puis, à côté, bah, y a des choses qui se font en série. Hein. On le sait. Le mois de la série, bah, j'ai mis une série justement un peu violente pour l'époque. Pour moi, à l'époque, qui n'étais pas habitué à voir, des séries si violentes pour les enfants. On était plus habitué aux Bugs Bunny, aux choses comme ça, et c'est vrai que ça a changé. Et aussi, bah, ce que j'ai dit, voilà, je vais me répéter, mais ouais, la façon de dessiner, moi, je suis pas fan, j'avoue. Les dessins simplifiés, les visages ronds, les yeux, voilà, pour moi, c'est... J'aime bien avoir une tête qui ressemble à une tête, voilà. Mais par contre, bon, c'était aussi la technologie, les robots, bon, moi, c'était la pointe des Japonais. À l'époque, c'était des gens qui ont amené beaucoup tout ce qui est gadgets et choses comme ça. Il y a toujours cette culture, et bon, bah, ça faisait découvrir autre chose, ça, c'était bien. Alors, si vous avez aimé, bah, j'ai mis Albator, hein, on a le droit à ça. Alors, on va en parler après Sankukai. Bah, ça, c'est la première série animée que j'ai vue. Pas animée, mais série. Ouais. Et on verra que c'est une série qui a eu une grosse influence sur la culture générale. Oui. XOR, ouais. Les Power Rangers, et puis Transformers, pour parler des films. Bon, puis après, bien sûr...
Gundam, comme je disais, actuellement, ou Macross, qui était plus dans les années 90, qui était aussi avec des robots.
Et puis, bien sûr, bah, vous pouvez vous refaire la série, des Goldorak, on le trouve facilement, et puis aussi ses préquels, hein, avec Grandizer et compagnie. Donc, à vous de voir. Et bien, maintenant, on va passer au coup de cœur Cerevor. Eh bien, j'en ai juste parlé avant. Je ne sais pas si tu connais la série Sankukai.
Mais bien sûr que je connais.
Alors, autant j'ai eu du mal à adhérer à Goldorak, Sankukai, j'ai trouvé ça rigolo. Et bon, après, c'était assez naïf, hein, les effets spéciaux. Mais bon, c'était une série de SF, donc pour moi, c'était bien passé. Alors, c'est une série télévisée de science-fiction japonais, réalisée par Minoru Yamada, et elle a été sur les écrans entre juillet 78 et janvier 79. Elle est composée de 27 épisodes de 25 minutes. Et c'est la deuxième série télé japonaise non animée qui a été diffusée en France après une autre série, alors là, que j'adorais, qui s'appelait La Légende des Chevaliers aux 108 étoiles. Et elle était programmée donc à partir de 79 en France. et on a pu la découvrir. Et je me rappelle, c'était le samedi après-midi, quand on avait des samedis où il y avait plein de séries, et on passait... À l'époque, on jouait encore beaucoup dehors, mais par contre, le samedi, on se précipitait pour regarder, parce qu'on avait le droit de, je ne me rappelle plus, c'est la Une des Tabous, je crois, on avait le droit de choisir ces programmes, donc c'était assez sympa. L'histoire, tu vas nous la résumer ?
Et oui, en l'an 70 du calendrier spatial, les humains ont commencé à coloniser l'espace. Plusieurs générations après, la Terre n'est plus, pour les descendants des colons, qu'un élément de leur histoire, la troisième planète du premier système solaire. Le 15e système solaire est, quant à lui, composé de trois planètes habitables, Cheta, Analis et Belda, qui gravitent autour du Soleil Glora. Ce système solaire est situé à 15 années-lumière de la Terre. Hayato est un jeune pilote sorti de l'école de navigation de Belda. Il est appelé par son père Jin sur Analis et s'y rend à bord d'un transport de fret piloté par Ryu, issu de la même école, et Siman, un homme singe. Alors qu'il s'approche d'Analis, la planète est attaquée par l'Estressos, une tribu nomade dirigée par Golem 13. Celui-ci a décidé de soumettre le 15e système solaire. L'Estressos repère un message de détresse envoyé vers la Terre depuis un village. Comenor, le général d'Estressos, envoie Volcor sur Analis pour découvrir l'origine du message. Celui-ci semble provenir de la maison du père d'Hayato. Lorsque Hayato arrive dans son village, il découvre que sa famille a été assassinée. Il découvre par la même occasion que son père fait partie d'un clan mystérieux, les Gen, et qu'il a également formé Ryu aux arts martiaux quelques années auparavant. Poursuivi par les Stressos, Hayato est embarqué par Ryu et Siman, mais leur vaisseau est attaqué par les Stressos. Ils sont aidés par une étrange femme nommée Eolia, qui voyage à bord de son vaisseau spatial en forme de navire, l'Azuris. Eolia leur fait don d'un vaisseau de combat, le Sankukai, Liabe en japonais. Les trois personnages décident d'entrer en résistance contre les Stressos. Ryu se fait appeler Strazos et Hayato, le fantôme, bientôt rejoint par le robot Sidero, gagné sur Belda par Ryu lors d'un concours de lancer de couteau. Sur Analis, la résistance s'organise, menée par Kamichi.
Comme vous pouvez voir, beaucoup d'inspiration avec Star Wars. On retrouve beaucoup d'éléments de la saga Star Wars. Les robots, l'homme singe, c'est Chewbacca. Le jeune pilote, la famille tuée, grosse influence Star Wars, et donc une série en effet qui a fait les beaux jours de la télé et qui était culte aussi, hein. C'était une des premières séries japonaises, on l'a cité, même la deuxième. Et bon, maintenant c'est un peu plus courant de voir des séries coréennes, japonaises, chinoises, enfin, asiatiques en général. Mais à l'époque, c'était vraiment très, très, très rare. Et cette série et son générique que nous allons passer maintenant a été aussi très connu des jeunes de cette époque. Et je vous propose donc de la découvrir. Eh bien, fin de ce Sérivore, premier de la saison 2023. On se retrouve bientôt pour un Sérivore, comme je disais tout à l'heure, spécial bilan 2022, sortie de 2023 des séries, avec des nouvelles pépites à découvrir. Et puis, en attendant, commencez bien l'année et puis amusez-vous bien parce que, par ces temps moraux, c'est toujours bien de rigoler entre copains devant une bonne série. À bientôt. Bye bye.
Bye.
série. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un céréal lover
ou un céréal eaters.